On s'excuse s'il y a du bruit, toujours des travaux devant la maison avec le REM qu'on est en train de construire. Donc là, j'entends des tracteurs qui semblent pousser du grabat. Bonjour Charlotte, que Dieu vous bénisse. Alors, prions. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Veuille nous parler ce matin. Veuille nous accorder, Seigneur, d'entendre ta voix, de bien saisir tes propos et de faire nôtre, Seigneur, cette parole que tu as préparée de toute éternité pour à notre attention. J'appelle ta bénédiction sur mes sœurs, sur mes frères. J'appelle, Seigneur, ta vie dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Et j'appelle, Seigneur, une transformation de leur existence afin, Seigneur, d'entrer dans ta pleine et parfaite volonté. Nous t'avons prié dans le plus précieux des noms, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien le bonjour à tous. Ce matin, on termine notre série. Demain, on aura plus un temps peut-être, bien entendu, de prière, puisque c'est la journée de jeûne, mais peut-être un rappel, bref, de l'ensemble de ces cinq femmes qu'on a étudiées à travers les 2 dernières semaines, qui sont mentionnées dans la généalogie de Christ, telle que rapportée par l'évangéliste Matthieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1. On a vu Tamar. On a vu Rahab, on a vu Ruth, on a vu Bathsheba, la femme d'Uri, qui est devenue la femme de David. Et on a vu aussi à travers les 2 dernières journées Marie, femme de Joseph, mère de l'enfant Jésus conçu par le Saint-Esprit. J'aimerais retourner ce matin sur Marie, en allant un peu plus vers pourquoi Marie est dans cette généalogie, qu'est-ce que ça nous amène comme annonce. Lorsqu'on a étudié chacun des personnages qu'on a vus à travers ces 2 dernières semaines, on disait que la présence de cette femme dans la généalogie était notamment l'annonce prophétique de choses qui devaient arriver à partir de l'histoire de l'Église. On a vu cette histoire de Tamar qui va avoir des jumeaux dans son sein et le premier jumeau va sortir le bras et va revenir à l'intérieur et va se faire doubler et on va le savoir parce qu'on va attacher un cordon au bras de ce premier jumeau. Il va se recroqueviller à l'intérieur et c'est son frère qui va le doubler. Et on a vu que cela, c'était l'annonce prophétique de l'Église. Lorsqu'on a parlé de Rahab, la prostituée, qui va recevoir des espions chez elle lors de la conquête et de la bataille de Jéricho, par la suite, la Bible va nous la mentionner comme étant l'épouse de Salmon, la maman de Boaz. Et on a dit que pour nous, c'était en fait l'annonce prophétique de la grâce de Dieu. Lorsqu'on va parler de la troisième femme qui est Ruth, cette jeune veuve moabite qui va prêter allégeance non seulement à sa belle-mère, à la mort de son beau-père, de son beau-frère et de son propre époux, et qui va dire à Naomi, je vais te suivre peu importe où tu iras. On a vu que l'opération de son mari, de celui qui va devenir son mari, Obed, en la rachetant, en exerçant son droit de rachat sur Naomi et bien entendu sur sa belle-fille Ruth, c'était pour nous l'annonce prophétique du rachat qui nous est aussi octroyé par Christ. On a vu par la suite le cas de la femme d'Uri, cette femme qui va être amenée de force près de David, une femme mariée à un des chefs militaires de l'armée de David. David va commettre un adultère avec Bathsheba, le nom de cette femme. Lorsqu'on analyse les textes, on se rend compte que David a non seulement forcé la venue de Bathsheba dans sa maison, mais de surcroît cela, s'est forcé sur elle. Donc on peut effectivement parler non seulement d'un adultère, mais d'un viol de la part de David. Et lorsqu'on parle de la femme d'Uri, de Bathsheba, on parle d'une annonce prophétique de la restauration. Oui, il y aura repentance de David et de cette union, puisque David va prendre Bathsheba par la suite comme épouse, va naître le roi Salomon, qui veut dire le roi de la paix, le roi issu de la paix avec Dieu. Donc pour nous, c'était l'annonce de la restauration possible à travers la mort de Christ. Mais lorsqu'on parle de Marie dans la généalogie de Jésus, je crois que l'annonce prophétique que ça faisait, et ça va être tout simplement une annonce d'environ 33 ans et demi, puisque cette prophétie va s'accomplir assez tôt, mais c'est une prophétie qui perdure et qui se manifeste encore aujourd'hui. C'était l'annonce prophétique de la manifestation du Seigneur. Cette parole merveilleuse que l'ange va prononcer à Marie en lui disant « Une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et on voit qu'il annonce que le Saint-Esprit va l'envelopper, va la recouvrir et qu'elle va concevoir Jésus, le Messie, le Seigneur, le Sauveur du monde, fécondé par le Saint-Esprit. Et pour nous, c'est donc l'annonce effectivement qu'en dépit des circonstances et des situations, en dépit des contextes dans lesquels on peut être, où nos limites sont atteintes, Marie est pour nous aussi l'annonce que Dieu va se manifester à travers nous. Alors, on va reprendre les différents thèmes qu'on a abordés concernant Marie, mais on va l'associer à un verset important. On va d'abord prendre les textes qui étaient dans Luc au chapitre 1, donc Matthieu 1, Luc 1, mais on va l'associer aussi à un texte qui se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 1. Et ce qui est intéressant, c'est que on doit se rappeler que l'auteur du livre de Luc, de l'Évangile de Luc, et l'auteur des Actes des Apôtres est la même personne. Assurément, celui qui l'inspire, c'est Dieu. Je ne dément pas cela. C'est effectivement Dieu qui va inspirer tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Toutefois, le scribe, l'auteur tactile ou du manuscrit de Luc et d'Actes des Apôtres sera la même personne, Luc, un des apôtres donc du Seigneur. Dans Luc au chapitre 28, au chapitre 1 plutôt, on va nous dire au verset 28, je vais retourner pour être sûr de vous lire les bonnes choses, au verset 28, l'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. » Et l'autre verset, au verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors ici, on a le début et la fin d'une conversation entre Marie et l'ange, l'ange Gabriel, qui vient la saluer, qui vient lui annoncer qu'elle va effectivement avoir en son sein le Messie. Ce qu'on a vu à travers les deux dernières journées, c'est que, un, cette grâce lui a été faite, donc c'est pas quelque chose qu'elle méritait, c'était une grâce qui lui a été accordée, et c'était le terme caritu, qui veut dire rendre acceptable. Donc, il y a eu un processus de transformation dans la vie de Marie qui l'a rendue acceptable aux yeux de Dieu. Par la suite, l'ange va lui dire « Le Seigneur est avec toi ». Le terme « méta », « être avec », qui veut dire « être au sein », être parmi et entouré, englobé, enveloppé. Il va lui dire au verset 30, « Tu as trouvé grâce auprès du Seigneur », le terme « iorisko », qui voulait dire « tomber sur ». Donc, c'est comme si Marie chemine, c'est l'exemple qu'on a pris hier, Marie chemine et à un moment donné, comme une pierre sur le sol, elle vient à frapper contre cette pierre. Et on se disait, c'est un peu ce genre de grâce ou de clin d'œil que Dieu nous fait, qui a été préparé de toute éternité. Ça nous prend des années et des années pour nous rendre à tel endroit, mais quand on arrive à tel endroit, on se rend compte que Dieu avait déjà préparé ce moment de toute éternité avec un clin d'œil pour nous encourager qui nous vient du ciel. Et Marie, sa réponse, comme on l'a vu toujours hier, avec le terme « doulé », va dire « Je suis servante du Seigneur, je suis esclave du Seigneur » et va dire « Qu'il en soit fait comme tu le dis, donc qu'il soit fait tel que tu viens de me l'annoncer. » Lorsqu'on regarde dans Actes au chapitre 1, le verset 8, un verset qu'on connaît tous, mais qu'on va associer à ce verset, vous allez vous rendre compte que ce qui s'est passé dans la vie de Marie, c'est exactement ce qui se passe avec le croyant post-Pentecôte. Le verset 8 dans Acte 1 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je répète le verset. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Un verset qu'on connaît bien, particulièrement lorsque on se dit de confession pentecôtiste, mais de surcroît à cela, je pense que le monde évangélique, le monde chrétien même, reconnaît ce verset comme étant important et étant une étape clé, un point de transformation grandiose de l'état de l'humanité lorsque nous expérimentons le fait de devenir l'habitation du Saint-Esprit, notamment. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? « Mais vous recevrez une puissance. » « Mais vous recevrez une puissance. » Recevoir, ça veut dire que quelqu'un l'a donné. Ce n'est pas que je l'ai acquis. Ce n'est pas que je l'ai acheté. Ce n'est pas que cela m'est dû. C'est le fait que quelqu'un me donne la chose et en me la donnant, par conséquent, je la reçois. Un peu comme cette image de Marie qui est rendue acceptable. Ça va au-delà de nos capacités et ça va au-delà de ce qui dépend de nous. La puissance que le Saint-Esprit nous amène, le fait que le Saint-Esprit vienne habiter sur nous, c'est encore une fois une grâce. Tout au long de ses enseignements sur les femmes, dans la généalogie de Jésus, on a parlé de la thématique de la grâce, d'une grâce qui nous est faite, qui est non méritée, d'une grâce que nous recevons, que nous ne pouvons pas associer à un mérite, à un travail, à un devoir accompli de notre part, mais qui est tout simplement un cadeau qui nous vient du ciel. Et la pensée concernant le Saint-Esprit est la même chose. Le terme qu'on utilise, c'est le terme lambano, L-A-M-B-A-N-O. Je répète, lambano, recevoir, L-A-M-B-A-N-O. Et au lieu de tout simplement cette image de recevoir qui est axée sur nous, le terme lambano, c'est plutôt qui est donné. Donc on met l'emphase plutôt sur le donateur que sur le récepteur ou le récipiendaire. Alors cette grâce, ce Saint-Esprit, nous est donnée. C'est une décision de Dieu qu'on ne peut expliquer, qu'on ne peut justifier, qui vient simplement de son désir de nous équiper, de son désir de nous armer, de son désir de nous donner ce qui est nécessaire pour accomplir le plan et le projet que Dieu avait pour nous. Alors, à l'instar de Marie qui va recevoir cet enfant Jésus en son sein, pour nous aussi, le Saint-Esprit vient habiter en nous sans que nous puissions prétendre le mériter, sans que nous puissions prétendre, en fait, il y en a qui peut-être s'aventurent à affirmer que cela leur était dû. Rien ne nous est dû de la part de Dieu, tout nous est donné par grâce, par amour et par affection à notre égard. Donc vous recevrez, il nous est donné. Une puissance, le terme dynamis, D-Y-N-A-M-I-S, D-Y-N-A-M-I-S. Et le terme dynamis, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière le dynamo. Vous savez, ce genre de petit chargeur électrique qu'on a régulièrement sur un vélo. Et la force électrique produite par la roue qui tourne charge un appareil électrique qui va donner une décharge électrique, une puissance, pour que la lumière devant le vélo puisse s'allumer. On a souvent cette histoire de la manivelle qu'on va tourner et qui produit une puissance, une charge électrique qui va permettre à la lumière de s'allumer. Lorsqu'on parle du dynamis ici, de la puissance, on parle donc de ce qui nous rend capables. L'idée derrière le Saint-Esprit, c'est ce qui nous rend capables. Un peu comme rendre acceptable, nous rend capables pour être l'habitation de Dieu, comme Marie a été rendue acceptable et capable de recevoir en elle celui qui deviendrait le Seigneur, ou celui qui était déjà le Seigneur, qui viendrait à naître à travers Marie. Donc ici, le Saint-Esprit nous rend capables. Il va nous dire par la suite, mais vous recevrez donc une puissance qui nous rend capables, dynamis, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le terme survenir, le terme grec hyper komai, Eperchomai, Chomai. Je répète ou j'épelle de nouveau. Eperchomai. Et lorsqu'on parle d'Eperchomai, j'enlève encore, comme ça arrive régulièrement. On a souvent de ces marabouts qui viennent juste envoyer de la publicité. C'est pas quelqu'un qui est là. C'est tout simplement une publicité qui est envoyée à droite et à gauche. Donc quand elle survient, je préfère l'enlever tout de suite pour que ça ne perturbe personne. Donc, le Saint-Esprit survenant sur nous, hyperchomai veut dire qui arrive sans qu'on le voie venir, qui arrive sans qu'on le voie venir. Jésus va dire à ses disciples, attendez à Jérusalem et là-bas, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous ne savez pas quand il va arriver. Vous ne le verrez pas venir. Vous ne le verrez pas arriver. Mais quand il sera là, vous saurez que c'est effectivement lui qui est là. Un peu cette même idée que le Iorisco qu'on a vu hier concernant Marie. Tu as trouvé grâce. Donc, elle marche et elle trébuche ou elle se frappe le pied contre une pierre qui est au sol. elle vient à la rencontre cherchée, voulue avec la grâce de Dieu, et nous aussi, ça nous arrive sans le voir venir. Rappelons-nous, je disais tout à l'heure que la présence de Marie dans la généalogie du Christ, c'est l'annonce prophétique de la manifestation du Seigneur. Ce qui s'est passé chez Marie, en parallèle, ça va se passer aussi avec l'Église le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit survient. On ne le veut, on ne le voit pas venir, et on y dit tout d'un coup, des langues de feu survinrent du ciel et se posèrent sur chacun. Tout d'un coup, survinrent, encore le même terme hypercomai qui est venu sans qu'on en connaisse ou sans qu'on le voie venir, sans qu'on puisse prévoir la chose. Le Saint-Esprit, Saint Agios, H-A-G-I-O-S, Esprit Pneuma, donc, et Agios veut dire la plus sainte des choses, Agios, le plus saint de tous les saints, Esprit Pneuma. Pneuma veut dire la source de vie. Donc, ce qui va survenir sur nous, c'est la plus sainte des sources de vie. Donc, on nous annonce, voilà, le Saint-Esprit va survenir sur vous, et le Saint-Esprit, dans son étymologie, dans le terme utilisé, veut dire la plus sainte de toutes les sources de vie. Est-ce que ça ne s'applique pas parfaitement aussi concernant celui qui a été placé dans le sein de Marie? N'était-il pas, et cette fois-ci, quand j'ai dit le sein de Marie, c'était S-E-I-N, dans les entrailles de Marie, si vous préférez. Est-ce que ce n'est pas le sein des saints, donc le S-A-I-N-T, parmi les saints, S minuscule A-I-N-T-S. Donc, est-ce que dans la personne de Jésus qui est placée dans les entrailles, dans le ventre de Marie, pour qu'elle le porte jusqu'à sa naissance, est-ce que ce n'est pas encore là celui qui est la source la plus sainte, la plus merveilleuse, la plus grandiose de vie qui soit? N'est-il pas celui qui donne la vie? Qui donne la vie éternelle, celui par lequel nous avons reçu la vie éternelle. Et quand son esprit vient habiter en nous, si lui est le Saint des Saints, est-ce que son esprit, qui ne peut pas être dissocié de lui, n'est-il pas aussi le Saint des Saints? Alors lorsqu'il habite en nous, lorsque nous sommes le temple du Saint-Esprit, lorsque l'Église prend son envol et que nous expérimentons le fait de devenir le temple du Saint-Esprit, est-ce que nous n'expérimentons pas alors d'avoir en nous le Saint des Saints, comme Marie a abrité le Saint des Saints pendant toute sa grossesse? Et il dit, vous serez mes témoins. On a vu hier que Marie portait cet enfant et que sa réponse à l'ange va être « Je suis esclave du Seigneur, je suis la doulée du Seigneur, qu'il en soit fait selon la parole que tu m'as dite. » Le terme « témoin », c'est le terme « martys », M-A-R-T-Y-S, je répète, M-A-R-T-Y-S. Et de « martys », on a trouvé, où on a sorti le nom en français, martyr. Qu'est-ce qu'un martyr? Un martyr, c'est quelqu'un qui va souffrir la mort, qui va aller jusqu'à la mort en raison de son allégeance à quelqu'un, en raison de son allégeance à une croyance, en raison de son allégeance à un Seigneur et à un Maître. Marie disait « Je suis l'esclave du Seigneur » et lorsque le Saint-Esprit survient sur nous, nous devenons les témoins, les martys de Dieu. Ça veut dire ses serviteurs à la vie comme à la mort. Ses serviteurs qui servent, c'est redondant mais je fais exprès, ses serviteurs qui servent pendant toute leur vie et jusqu'à la mort. Nous sommes des martis. Nous sommes appelés à être des martis pour Dieu. Marie annonçait que la présence de Dieu allait s'emparer d'elle, que la présence parfaite, sainte de Dieu allait habiter en elle et qu'elle allait être servante de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous est annoncé, on nous dit « Vous allez être les martis, les serviteurs à la vie comme à la mort de l'Esprit de Dieu et de la foi chrétienne. » Et Marie va dire « Qu'il en soit fait selon ta parole. Je me soumets donc à ta parole. J'accepte donc ta parole. J'irai où tu iras, à l'instar de Ruth. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple deviendra mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Que je sois traité dans toute la rigueur de Dieu si je fais différemment de cela. » Ruth était en train de dire « Je vais vivre pour mon Seigneur et je vais vivre la foi de l'Éternel notre Dieu jusqu'à la mort. » Marie disait « Je suis servante et je me plie totalement à ta parole. » Et lorsque Jésus annonce l'arrivée du Consolateur, annonce l'arrivée du Saint-Esprit qui va survenir le jour de la Pentecôte, il est en train de dire « Vous serez les martis à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, puis je vous enverrai en Judée, puis je vous enverrai en Samarie, puis je vous enverrai jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette suite d'endroits n'est pas banale dans le texte biblique. Jérusalem était l'épicentre de la foi judaïque. Jérusalem était l'endroit où on venait chercher Dieu, où Dieu se manifestait. Et après ça, il va dire, mais on va étendre ça en Judée. Et la Judée était considérée comme l'endroit où les plus purs judaïsants habitaient, où les juifs les plus orthodoxes par rapport à la loi mosaïque habitaient, les plus respectueux de la loi de l'Éternel habitaient en Judée. Lorsqu'on parlait de la Samarie, on avait vraiment une avergence, on va dire, pratiquement un dégoût, je vais y aller comme ça. On repoussait les Samaritains parce que les Samaritains étaient composés de deux choses. Étaient composés de Juifs qui étaient beaucoup trop laxistes aux yeux des Judéens et de surcroît à cela aussi à des peuples qui avaient été soit maintenus dans la terre de Canaan et donc en territoire israélite ou qui s'étaient agglomérés dans ce secteur-là, mais qui n'étaient pas des judaïsants en soi. Donc, il y avait comme ce micmac juif païen, et après ça, il arrive, il dit, jusqu'aux extrémités de la terre, et les extrémités de la terre, ce n'étaient pas des extrémités de la terre juive, c'était dans la pensée vraiment du païen, dans la pensée vraiment de celui qu'on appelait un gentil, ou de ceux qu'on appelait les gentils, donc ceux qui n'étaient pas juifs de naissance. Donc, il y a toute cette connotation où Dieu nous envoie tout d'abord vers Jérusalem, dans l'endroit des plus purs parmi les plus purs, en Judée, les plus orthodoxes parmi le peuple juif, puis après ça en Samarie, des coussi-coussa, et plus tard jusqu'aux extrémités de la terre. Et on revoit encore là toute la pensée de l'Église, de ces deux fils qu'il y aura dans le sein de Tamar, le premier qui tend la main, à qui on accroche un ruban, qui revient se ratatiner dans le ventre et qui se fait doubler par son jeune frère qui représente l'Église, doublant le peuple d'Israël. Dans l'annonce de Marie, on annonce la présence de l'Esprit de Dieu parmi son peuple. Non seulement Marie va-t-elle abriter le Saint des Saints, mais toi et moi, aujourd'hui, nous abritons le Saint-Esprit et ce Saint-Esprit nous conduit, nous dirige, nous amène à être des serviteurs à la vie comme à la mort pour répandre la bonne nouvelle de cette naissance en Christ qui est donnée à tous ceux qui croient, juifs comme non-juifs. À travers la naissance ou la présence de Marie dans la généalogie de Jésus, nous annoncions prophétiquement la présence du Saint-Esprit dans des canaux comme toi, comme moi, qui deviennent des serviteurs jusqu'à la mort pour le roi des rois, qui se soumettent à sa volonté et qui vont être des porte-voix dans la puissance, dans l'onction qui leur est donnée par le Saint-Esprit depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors voilà ce que nous avions concernant ces cinq femmes merveilleuse à l'histoire et aux conditions et à l'environnement difficile, probablement pas celui qu'on aurait choisi pour des femmes figurant comme des mères en Israël, mais je suis tellement reconnaissant que Dieu nous ait inspiré avec ces femmes-là et non pas avec les saintes parmi les saintes, non pas strictement avec celles qui sont sans faille, sans tâche, sans manquement, parce que assurément, si j'avais dû calquer ma vie par rapport à des gens sans faille et sans faute, ça aurait été décourageant, parce que croyez-moi, je suis un pécheur en rémission, je suis un pécheur gracié par Dieu, et j'ai encore besoin de la puissance, du dynamisme de Dieu, du dynamo de Dieu, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et répandre cette bonne nouvelle. Marie était l'annonce de ce qui se passe dans ta vie. Marie était l'annonce de ce qui se passe dans l'Église. Alors ne réfrénons point l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous. Ne réfrénons point l'appel que le Saint-Esprit lance sur nos vies aujourd'hui. Acceptons comme Marie d'être doulée, serviteur du Seigneur. Poussons-le à l'extrême pour devenir des martyrs, des témoins qui servent de témoins, qui servent comme des serviteurs jusqu'à la fin de leur jour pour entendre éventuellement notre Seigneur, notre Sauveur, notre glorieux Roi dire à notre arrivée dans l'éternité, « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entrez dans la joie de votre Maître. » Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Que Dieu nous bénisse. Prions juste un instant. Merci Seigneur pour cette journée qui débute avec ce défi d'être des martyrs, des témoins, des serviteurs qui te servent en dépit des circonstances, des situations, en dépit de la faiblesse de leur force personnelle, de leur talent personnel, dépendant totalement sur le dynamisme du Saint-Esprit, sur la force, la puissance du Saint-Esprit, abritant en leur sein le Saint des Saints, abritant dans leur être, dans le temple qu'ils sont devenus, le Saint de tous les saints, notre Seigneur et son Esprit Saint qui habite en nous. Alors Seigneur, merci de nous utiliser, nous, des vases si friables, si faibles. Tu nous utilises à l'avancement de ton royaume. Bénis ma sœur, bénis mon frère. Donne-lui la force, la puissance de ton esprit aujourd'hui, qu'elle puisse l'utiliser à bon escient, qu'elle puisse l'utiliser pour entrer dans de nouveaux territoires, qu'elle quitte son Jérusalem pour aller vers sa Judée, vers sa Samarie et vers ses extrémités de la terre, qu'elle puisse être un porte-voix, qu'il puisse être un porte-voix, peu importe où tu les guides et tu les diriges, là où tu me veux, Seigneur, j'irai. Au moment où tu m'y voudras, j'y serai. Et ce que tu voudras que j'y fasse, je le ferai parce que je suis ton doulé, je suis ton martyr pour toujours. Je te loue dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. On est déjà rendu à 9h06. On se revoit donc demain matin. C'est notre temps de jeûne et de prière demain. Donc, disposons-nous pour ceux qui le veulent. Il n'y a rien d'obligatoire, mais on a décrété depuis déjà de nombreux mois maintenant que le vendredi était Journée nationale de jeûne et de prière pour l'EAJC, pour les membres de l'EAJC. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, on sera dans le jeûne et dans la prière demain avec deux rencontres à 8h30 demain matin et 19h pour conclure notre journée avec un temps de prière. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.